Le 27 février 1962. Commentaire sur l'aphorisme 72. The sign of dawning knowledge is to feel that as yet I know little or nothing. And yet, if I could only know my knowledge, I already possess everything.
Le signe de la connaissance naissante est de sentir que l'on ne sait encore rien, ou bien peu. Que l'on ne sait encore rien, ou bien peu. Et pourtant, si seulement je pouvais connaître ma connaissance, je possède déjà tout.
Alors, quelle question tu poserais?
Si tu n'as rien de spécial à dire, il est beau. Moi, j'avais préparé une question comme ça. Il arrive dans le sommeil qu'on ait une connaissance très exacte de ce qui va arriver, avec des détails matériels d'une précision surprenante, comme si tout était déjà là, accompli dans les moindres détails sur un plan occulte. Est-ce exact? Quel est ce plan de connaissance? Y en a-t-il un ou plusieurs? Comment procéder pour y avoir accès consciemment en état de veille? Et comment se fait-il que des gens sérieux, qui ont une réalisation divine, puissent se tromper parfois grossièrement dans leurs prédictions?
Oh, oh, mais c'est un monde! C'est pas une question, c'est 20 questions!
Ce qui t'intéresse là-dedans?
C'est très intéressant, mais ça voudrait dire au moins 10 pas. Les rêves prémonitoires, quand ce sont des rêves de choses immédiates, c'est-à-dire rêver la nuit de ce qui arrivera le lendemain, n'est-ce pas? Parce que, je retire ce que je viens de dire, il y a des quantités différentes de rêves prémonitoires. Il y a des rêves prémonitoires à réalisation immédiate, mais il y a des rêves prémonitoires de réalisation plus ou moins échelonnés dans le temps, et suivant la place dans le temps, ces rêves ont été vus dans des domaines différents. On remonte vers une certitude absolue, plus la distance est grande. parce que ce sont des visions que l'on a dans un domaine très proche de l'origine. Et que le temps entre là. Le prononcement, peut-on dire le prononcement ?
Oui.
Le prononcement de ce qui va être et la réalisation peut être très, très long dans le temps. Mais le prononcement est très certain parce qu'il est très proche de l'origine. Il y a un endroit, quand on est identifié avec le suprême, où on sait tout d'une façon absolue, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir et partout. Mais généralement, les gens qui vont là, quand ils reviennent, ils oublient ce qu'ils ont vu. Il faut une discipline particulièrement sévère pour se souvenir. Ça, c'est là où on ne se trompe pas. C'est le seul endroit où on ne se trompe pas. Mais les mailles ou les chaînons de communication ne sont pas toujours au complet et il est rare qu'on se souvienne. Mais enfin, pour en revenir à ce que je disais, suivant le plan sur lequel on a vu, on peut plus ou moins juger de la du temps que cela mettra pour se réaliser. Et les choses immédiates sont déjà réalisées, existantes, dans le physique subtil. Et on peut les voir là, simplement, elles sont, elles existent là. Et ce sera seulement la réflexion, même pas une transcription, la réflexion, la projection de l'image dans le monde matériel qui se produira le lendemain, quelques heures après. Là, on voit la chose exacte et dans tous les détails parce qu'elle est déjà. Et ça dépend de la l'exactitude de la vision, le pouvoir de vision. Si vous avez un pouvoir de vision objectif et sincère, vous voyez la chose exactement. Si vous y ajoutez des sentiments ou des impressions, ça colore. Alors l'exactitude, là, dépend exclusivement de l'instrument, c'est-à-dire de celui qui voit. Mais dès que vous allez dans un domaine plus subtil, comme le domaine vital, ou alors le domaine mental encore bien plus, mais déjà dans le domaine vital, il y a une petite marge de possibilités. Alors, grosso modo, on peut voir ce qui va arriver, mais dans les détails, ça peut être comme ceci ou ça peut être comme ça, il y a des volontés ou des influences qui ont la possibilité d'intervenir et de créer une différence. ceci parce que la volonté originelle est reflétée, pour ainsi dire, dans des domaines différents, et chaque domaine change la l'organisation et la relation des images. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'images. Ce n'est pas la chose elle-même dans son essence, c'est la réflexion de cette chose. On pourrait dire que nous sommes, dans notre existence matérielle, seulement une réflexion, une image de ce que nous sommes dans notre vérité essentielle. Et c'est les modalités de ces réflexions qui introduisent toutes les erreurs et toutes les falsifications. Ce que l'on voit dans les sens est parfaitement vrai et pur et existe de toute éternité. Les images sont essentiellement variables. Et suivant le degré de mensonge introduit dans les vibrations, le degré de déformation et de transformation augmente. On pourrait dire que toute circonstance, tout événement et toute chose ont une existence pure, qui est l'existence vraie, et un nombre considérable d'existences impures ou déformées, qui sont l'existence de la même chose dans tous les domaines de l'être. Par exemple, dans le domaine mental, dans le domaine intellectuel, il y a tout un genre de commencement de déformation, de domaine mental, une quantité considérable de déformation. Et à mesure que tous les domaines émotifs et sensoriels interviennent, les déformations augmentent. Et une fois que c'est dans le matériel, c'est le plus souvent, c'est, ça ne peut plus être reconnu, c'est comment, unrecognizable. C'est complètement déformé. Au point que il est quelquefois très difficile de savoir que ça, ça, c'est l'expression matérielle de ça. Ça ne se ressemble plus beaucoup. C'est une façon un peu nouvelle d'aborder le problème et qui peut donner la clé de beaucoup de choses. Ainsi, quelqu'un que l'on connaît bien, qu'on a l'habitude de voir matériellement, si on le voit dans le physique subtil, il y a déjà des choses qui deviennent plus prominentes, plus visibles, plus importantes, et que l'on n'avait pas vues parce que dans la grisaille matérielle, ça avait passé au même plan que beaucoup d'autres choses. Il y a des caractères ou des expressions de caractère qui deviennent suffisamment importants pour être très visibles et qui physiquement n'avaient pas paru. Ce qui fait que quand vous regardez quelqu'un physiquement, il y a la couleur du teint, la forme des traits, l'expression. À la même minute, si vous voyez cette figure, dans le physique subtil, tout d'un coup, vous apercevez qu'une partie de la figure a une certaine couleur et une autre partie a une autre, que les yeux ont au-dedans d'une expression et une sorte de lumière qui n'était pas du tout visible, et que le tout fait une apparence et surtout une impression extrêmement différente qui paraîtrait pour nos yeux physiques quelque chose d'un peu extravagant, mais qui est très expressif pour la vision du subtil et révélatrice du caractère ou même des influences auxquelles sont soumises la personne. Ceci est la notation d'une expérience faite un jour passé. Ainsi, suivant le degré dans lequel on est conscient et on voit, on perçoit des images, on voit des événements plus ou moins proches et on les voit d'une façon plus ou moins exacte. La seule vision qui soit vraie et sûre est la vision de la conscience divine. Le problème est donc de devenir et conscient de la conscience divine et de garder cette conscience dans tout temps. Entre temps, il y a toutes sortes de manières de recevoir des indications. Cette vision exacte et précise et, on va dire, familière que certaines personnes ont, ont plusieurs, il y a plusieurs sources. Ça peut être une vision par identité avec les circonstances et les choses, quand on a pris l'habitude d'étendre sa conscience à ce qui nous entoure. Ça peut être une indication donnée par un bavard du monde invisible qui s'amuse à vous prévenir de ce qui va arriver. Ça arrive très souvent. Alors ça dépend de la qualité morale de votre annonciateur. S'il s'amuse à vous dépend, il vous raconte des histoires. C'est ce qui arrive la plupart du temps aux gens qui ont comme ça des entités qui les renseignent. Elles peuvent, pour les amorcer, leur raconter très souvent les choses telles qu'elles seront, parce qu'elles ont une vision universelle dans un domaine quelconque, du vital ou du mental. Et puis quand elles sont bien sûres que vous aurez confiance en elles, elles peuvent commencer à vous raconter des histoires et des blagues, ce qui fait que, comme on dit en anglais, you make a fool of yourself. Ça arrive souvent. Il faudrait être soi-même dans une conscience supérieure à celle de ses individus, de ses entités, de ses petites divinités, comme quelqu'un les appelle, et pouvoir contrôler par en haut la valeur de leur prononcement. Si on a une vision mentale universelle, on peut voir toutes les formations mentales. Et alors là, on peut voir, et c'est très intéressant, comment le monde mental s'organise pour se réaliser sur le plan physique. Et alors on voit les différentes formations, la façon dont elles s'approchent, se combattent, se combinent, s'organisent, et celles qui deviennent plus fortes et influencent plus et arrivent à une réalisation plus totale. Maintenant, si l'on veut avoir vraiment une vision supérieure, il faut surgir hors du monde mental et voir les volontés originelles à mesure qu'elles descendent pour s'exprimer. Dans ce cas-là, on peut ne pas avoir tous les détails, mais le fait central, le fait dans sa vérité centrale, est indiscutable, indéniable, absolument correct. Maintenant, il y a des gens qui ont la faculté de prédiction de choses qui sont déjà existantes sur Terre, mais à la distance, une grande distance, très loin des yeux physiques. Ça, généralement, ce sont ceux qui ont la capacité d'élargir et d'étendre leur conscience et qui ont la vision physique, mais un petit peu subtil, dépendant d'un organe plus subtil que l'organe purement matériel, ce qu'on pourrait appeler la vie de cet organe. Et alors, en projetant sa conscience avec la volonté de voir, on peut voir très bien, on voit les choses, elles sont déjà, seulement elles ne sont pas dans le champ de notre vision ordinaire. Elles sont dans le champ d'une vision. Ça, ceux qui ont ça et qui disent ce qu'ils voient, qu'ils sont des gens sincères, qu'ils ne sont pas des blafeurs, ils voient absolument, d'une façon absolument précise. Au fond, un grand facteur pour les gens qui prédisent ou qui prévoient, c'est leur absolue sincérité. Et malheureusement, à cause de la curiosité des gens, de leur insistance, de la pression qu'ils font, et à laquelle il y a très peu de gens qui savent résister, quand il y a quelque chose que l'on ne voit pas d'une façon exacte ou précise, il y a cette faculté d'imagination intérieure qui est presque involontaire, qui ajoute le petit élément qui manque. Et c'est ça qui fait les failles dans les prédictions. Il y a très peu de gens qui ont le courage de dire « Ah non, ça, je ne sais pas, ça, je ne vois pas. Ça m'échappe. » Ils n'ont même pas le courage de se le dire à eux-mêmes. Et alors, un tout petit peu d'imagination qui agit d'une façon presque subconsciente, et alors on complète la vision, l'information. N'importe quoi peut arriver. Il y a très peu de gens qui savent résister à ça. J'ai connu beaucoup, beaucoup de voyants, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient un don merveilleux. Il y en avait très peu qui savaient s'arrêter juste là où ils ne savaient plus. Ou bien, pour un détail de... C'est ça qui donne à ces facultés toujours une qualité un peu douteuse. C'est qu'il faut être vraiment un saint, un grand sage, un grand saint, et tout à fait libre, pas du tout sous l'influence des gens, et même, il ne s'agit pas de ceux qui veulent avoir une renommée, parce qu'alors là, ils tombent dans des pièges grossiers. Mais une bonne volonté. Vouloir contenter les gens, leur faire plaisir, les aider, suffit de ça. Okay. Ça défend. J'ai répondu
oui,
ou pas
ça.
Tout
oui.
À tout
oui. Je serais tenté quand même de demander, quand ces choses sont prêtes déjà dans le physique subtil, qu'on en
oui.
a la vision,
oui.
Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer et essayer de... Est-ce qu'on peut encore agir?
Il y a un exemple que je donne toujours qui est très intéressant, n'est-ce pas? C'est un homme qui m'a raconté la chose lui-même. Il y avait un temps où... Je dis ça parce que c'est un détail amusant. Où dans le journal le matin, il y a longtemps, tu devais être bien petit, ils avaient un garçon comme les garçons de lift. Il m'a raconté ça en anglais. À leur en tête, il y avait un garçon qui montrait du doigt quelque chose, un petit dessin dans le matin.
Ouais.
Comme un groom, n'est-ce pas, ou de ces garçons de restaurant comme ça, qui étaient assez habillés comme ça, et qui montraient toujours la date ou je ne sais quoi. C'était un petit dessin. Mais alors cet homme, il m'a dit, il était en voyage, et dans un grand hôtel, je crois que c'était, je ne sais pas dans quelle ville. Et la nuit, de bonne heure le matin, très bonne heure le matin, il avait eu un rêve. Il avait vu ce garçon d'hôtel, qui, cette espèce de boy là, qui lui montrait un char funèbre, tu sais comment ça? Quand on emmène les gens au cimetière là-bas en Europe, qui lui l'invitait à monter dedans. Et alors, il a vu ça, et puis le matin, quand il a été prêt, il est sorti de son appartement qui était tout en haut. Le même garçon, habillé de la même manière, lui a montré l'ascenseur pour qu'il descende, qui était monté à son niveau pour le prendre. Il lui a montré. Ça lui a fait un choc, il a refusé, il a dit non merci. L'ascenseur est tombé, il a été écrasé, les gens ont été tués. Alors il a dit que ça, n'est-ce pas, après ça, il croit au rêve. C'était une vision qu'il avait vue, ce garçon, n'est-ce pas, et au lieu que ce soit l'ascenseur, ça lui montrait son catafalque. Comment est-ce qu'on a vu ça? Alors quand il a vu le même geste, le même garçon, le même geste, n'est-ce pas, comme ça, un geste presque, comme un dessin, n'est-ce pas? Et il a dit non merci, je descends à pied. Et la machine, c'était des ascenseurs avec...
Hydraulique.
La machine s'est cassée, ça s'est effondré, c'était tout en haut, ça a été mouillé. Par conséquent, moi j'ai mon explication, n'est-ce pas, justement il m'avait demandé. Mon explication, c'était une entité qui lui avait, parce qu'il y avait l'intermédiaire d'une intelligence, pas d'une conscience. Ça ne semble pas être son propre subconscient. Ou c'est son subconscient qui était au courant, parce qu'il avait vu que ça allait arriver, mais pourquoi son subconscient lui a fait une image comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose dans le subconscient qui savait, n'est-ce pas, c'était déjà là. C'était déjà dans le physique subtil. Ça existait. L'accident existait déjà avant d'arriver. La loi, l'accident. Il y a évidemment toujours une... Pour tout, il y a une différence, quelquefois de quelques heures, Mais ça, c'est le maximum. Quelquefois, de quelques secondes. Mais ça... Et très souvent, les choses vous disent qu'elles sont là. Pour qu'elles entrent en contact avec votre conscience, ça prend quelquefois quelques minutes, quelquefois quelques secondes. Ça, c'est, n'est-ce pas, constamment, constamment, je sais ce qui va. Des choses absolument sans intérêt, tu comprends? Il n'y a aucun intérêt à le savoir d'avance, on n'y change rien. Mais ça existe et c'est autour de vous, c'est dans... Si votre conscience est assez large, vous savez tout ça. Par exemple, que telle personne va m'apporter un paquet. Des choses comme ça. Mais tous les jours, ça se passe. Ou que telle personne est en train d'arriver. Et ça, c'est parce que la conscience est répandue. Et alors, elle contacte les choses. Mais on ne peut pas dire que c'est de la, c'est prémonitoire, parce que ça existe déjà, c'est seulement le contact avec vos sens qui prend quelques secondes pour se réaliser. Parce qu'il y a une porte ou un mur ou quelque chose qui vous empêche de voir. Mais moi j'ai eu plusieurs fois des choses comme ça. Par exemple, une fois je me promenais dans la montagne, j'étais sur un sentier de montagne avec flasque courant, d'un côté le précipice et de l'autre côté le rocher à pic. J'étais avec trois enfants derrière moi. Et puis une quatrième personne derrière qui fermait la queue. J'étais en tête. Et, n'est-ce pas, ça suivait le rocher, avec, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas où on allait. C'était d'ailleurs très dangereux d'aller, c'était un chemin comme ça, parce qu'on glissait, on était dans le trou. Eh bien, je marchais en tête, et tout d'un coup, j'ai vu, n'est-ce pas, avec d'autres yeux que ceux-ci. Pourtant, je regardais attentivement. Hein. J'ai vu un serpent, comme ça, sur le rocher, qui attendait de l'autre côté. Et alors, j'ai fait un pas, et en effet, de l'autre côté, il y avait le serpent. Ça m'a évité le choc de la surprise. Parce que j'avais vu et que j'avançais, n'est-ce pas, Et alors, comme ça m'a évité le choc de la surprise, j'ai pu dire aux enfants, sans leur donner de choc, arrêtez, restez tranquilles, bougez pas. N'est-ce pas ? Avec le choc, il aurait pu arriver quelque chose. Non, le serpent avait entendu du bruit, il était déjà lové. On dit lové. Et en état de défense devant son trou, comme ça, avec sa tête qui marchait. C'est une vipère. C'est en France. Rien n'est arrivé. Tandis que s'il y avait eu une confusion, un brouhaha, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Ce qui fait que très, très, très souvent. Pour des serpents, ça m'est arrivé quatre fois. Une fois, il faisait tout à fait nuit, et alors c'était ici, et c'était près de... Là-bas où sont les pêcheurs, près d'Ariane-Coupon. Le village de pêcheurs près d'Ariane-Coupon. Il y avait un... un cours d'eau, n'est-ce pas, juste à l'endroit où ça tombait dans la mer. Il faisait nuit, la nuit était tombée très vite, et on marchait sur une route, et juste au moment où j'allais baisser mon pied, j'avais levé mon pied, j'allais le baisser, eh bien j'ai entendu distinctement une voix à mon oreille, « Attention !» Personne n'avait parlé, n'est-ce pas? Et alors, j'ai regardé et j'ai vu juste, n'est-ce pas, au moment où mon pied allait toucher par terre, un énorme cobra noir sur lequel j'aurais confortablement mis mon pied. Ce sont des gens qui n'aiment pas ça. Généralement, ils se retournent immédiatement. Il avait filé et puis il a traversé l'eau. C'était une beauté. Machin ouvert. La tête comme ça, on va traverser comme un roi. Tout ça dehors, comme ça. Et puis il allait dans l'eau, ça faisait un évidemment, j'aurais été puni de mon impertinence. Des choses comme ça, ça, j'en ai eu des centaines et des centaines et des centaines. Juste à la seconde, n'est-ce pas? Pas une seconde trop tôt. Enfin. Et pour, avec des choses différentes. Une fois à Paris, j'étais en train, c'était les dernières semaines de... J'avais décidé que dans un certain nombre de mois, j'aurais la jonction avec... la présence psychique, le divin intérieur. Et je ne pensais plus qu'à ça, et je n'étais plus occupé que de ça. J'habitais près du Saint-Michel, là-bas, et c'était près du Luxembourg. Et alors, j'allais me promener, m'asseoir au Luxembourg le soir, mais toujours intériorisé. Ce n'est pas, il y a une espèce de carrefour là, c'est pas un endroit pour traverser intériorisé, c'était pas raisonnable. Et alors j'étais comme ça, j'avançais lorsque tout d'un coup j'ai reçu un choc, comme si j'avais reçu un coup. Et comme si quelque chose me donnait un coup. Et alors j'ai sauté en arrière, instinctivement. Et quand j'ai sauté en arrière, un tramway a passé. C'était le tramway que j'avais senti à une certaine distance, n'est-ce pas? Peut-être un peu plus d'un bras étendu. Ça avait touché l'aura de protection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle était très forte. J'étais en plein occultisme et je savais comment la garder. Une aura de protection, ça avait été touché. Alors, ça m'a littéralement jeté en arrière comme si j'avais reçu le choc physique. Et avec des insultes du conducteur. J'ai sauté à terre, ça passait comme ça. Je me souviens plus, mais enfin, c'est à l'appel que je pourrais en raconter. Ça a des raisons différentes. Très souvent, j'étais informé, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a informé. Une petite entité ou un être quelconque. Quelquefois, c'était comme ça, l'aura qui protégeait. Pour toutes sortes de choses. C'est-à-dire que la vie était rarement limitée juste au corps. C'est commode, c'est bon, c'est nécessaire, ça augmente vos capacités. Ça, c'était ce que Théon avait dit tout de suite. Il avait dit, vous privez de sens qui sont tout ce qu'il y a de plus utile, même pour la vie la plus ordinaire. Si vous développez vos sens intérieurs, il leur donnait des noms mirobolants. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Nous pouvons savoir infiniment plus de choses que nous n'en savons d'ordinaire. Simplement avec l'usage de nos propres sens, comme il dit, n'est-ce pas, même non pas seulement au point de vue mental, mais au point de vue vital, mais au point de vue physique.
Écoutez, la méthode, la méthode.
Oh, la méthode est une certitude. Ce sont des disciplines. Ça dépend de ce que l'on veut faire. Ça dépend pour chaque chose, il y a une méthode. Il y a toujours, n'est-ce pas, la première méthode, c'est d'abord de vouloir. C'est-à-dire de prendre une décision. Ou vous voulez développer, on vous donne la description de tous ces sens et comment ils fonctionnent. Ça, c'est une longue affaire. Et alors, on vous donne la description de ça, alors vous prenez un ou plusieurs ou celui dans lequel vous avez plus de facilité pour commencer et vous décidez. Et puis alors, suivant ce que c'est, vous suivez la discipline. Comme par exemple, pour le... c'est l'équivalent des exercices pour se développer les muscles. Pour la volonté, c'est... Même pour la volonté, n'est-ce pas, on peut se créer une volonté. Mais alors, quand c'est pour des méthodes, quand c'est pour quelque chose de plus subtil, alors c'est de se faire une image exacte de ce que l'on veut, n'est-ce pas, de se mettre en rapport avec la vibration correspondante, et puis alors de se concentrer et de faire des exercices. Comme par exemple de s'exercer à voir à travers un objet, ou bien d'entendre à travers un son, ou bien de voir à distance. Par exemple, j'étais plusieurs mois immobilisé dans un lit, et je trouvais ça assez ennuyeux. Je voulais voir, j'habitais dans une chambre, et puis après la chambre, il y avait une autre petite chambre. Au bout de la chambre, il y avait une sorte de pont, et au milieu du jardin, le pont se changeait en escalier, descendait dans un très grand et bel atelier qui était au milieu du jardin. Et je voulais aller voir ce qui se passait dans l'atelier parce que je m'ennuyais dans ma chambre. Alors je restais bien tranquille, je fermais mes yeux et j'envoyais ma conscience petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, jour après jour, n'est-ce pas, je prenais une heure fixe et je faisais l'exercice régulier. D'abord, on se sert de son imagination et puis après, ça devient un fait. Et alors, après un certain temps, j'avais tout à fait la sensation physique, n'est-ce pas, de ma vision qui se déplaçait. Je suivais et puis je voyais des choses en bas que je ne savais pas du tout quelles étaient, ce qui était. Et je vérifiais après. Le soir, je demandais ce que ça c'était comme ça, et ça c'était comme ça, et ça c'était comme ça. Mais, n'est-ce pas, ce sont des choses. Chacune de ces choses, il faut faire ça pendant des mois, avec patience, une sorte d'obstination. On prend tous les leçons, la vue, et puis même on arrive à des choses subtiles du goût, de l'odorat, du toucher. Alors au point de vue mental, c'est plus facile, n'est-ce pas? Parce que c'est justement là on est plus habitué à la concentration quand on veut réfléchir et trouver un système. Alors au lieu de suivre les déductions de pensée, on arrête tout et on fait une concentration sur l'idée, sur le problème, et puis on arrive à concentrer, intensifier le point d'attention du problème, n'est-ce pas, et puis on arrête tout et on attend jusqu'à ce que par l'intensité de la concentration, on obtienne une réponse. Ça aussi, ça demande un peu de temps. Mais quand on a été un bon élève, on a un peu l'habitude de faire ça, c'est pas très, très difficile. il y avait ces sens, depuis le plus matériel, une prolongation des sens physiques. Comme par exemple les peaux rouges, les Indiens peaux rouges. Ils ont, n'est-ce pas, un ouïe et un odorat qui beaucoup, beaucoup plus étendu que le nom. Les chiens, un odorat. Et puis, ces Indiens, j'en connaissais un, c'était mon ami quand j'avais 12 ans, je crois. Il était venu avec... comment il s'appelait ? Buffalo Bill. Le temps de l'hippodrome. Longtemps, j'avais 8 ans. Et il mettait son oreille par terre. Et alors il disait, et il était arrivé, il était tellement calé qu'il savait la distance. Suivant l'intensité de la vibration, il savait à quelle distance c'était. Le bruit de quelqu'un qui marchait. Alors après ça, n'est-ce pas, les enfants, immédiatement, ils disent, je voudrais bien savoir. On essaie. C'est comme ça qu'on se prépare. On croit qu'on s'amuse, mais on se prépare pour plus tard. Voilà.